Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour sa déclaration. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, les relations internationales sont de plus en plus complexes et multidimensionnelles et l'évolution des événements dans le monde est de plus en plus rapide, de moins en moins prévisible. Dans ces conditions, il est de plus en plus impératif aussi de convenir de réponses collectives aux principaux problèmes qui se posent dans le monde contemporain. Et cela, seule une organisation authentiquement universelle comme l'ONU peut le faire. Cela étant, ces efforts solidaires ne peuvent avoir de résultat que si ils reflètent tout l'éventail des vues de la communauté internationale concernant les défis et les menaces mondiaux, toute l'expérience historique et toute la diversité culturelle et civilisationnelle du monde contemporain. Pour la majorité des membres de la famille des Nations Unies, cette approche procède de l'axiome. Mais il existe une autre tendance dans le cadre de laquelle, par action conjointe, on entend l'acceptation du point de vue d'un groupe de pays. Pareilles vues se font entendre dans les domaines les plus divers, qu'il s'agisse de la sécurité internationale, du règlement des situations de conflit, du fonctionnement de l'économie mondiale, du choix des modèles de développement ou des valeurs fondamentales. Beaucoup de problèmes du monde contemporain ont trouvé une nouvelle manifestation dans la situation tragique en Syrie et dans le développement ambigu des événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans son ensemble. Dès le début des troubles dans cette région, la Russie a appelé systématiquement une approche unifiée de la communauté internationale qui concilierait l'appui aux peuples arabes sur la voie de la transformation et l'acceptation du fait que ces processus auront objectivement un caractère prolongé, parfois douloureux, et qu'il est très important de ne pas leur nuire par une grossière ingérence de l'extérieur. Nous avons souligné plutôt la nécessité d'agir de manière pondérée, en prenant en compte le fait qu'il s'agit de phénomènes complexes liés notamment à la recherche de compromis entre les divers groupes ethnico-confessionnels qui composent la mosaïque des sociétés arabes. Nous avons systématiquement défendu l'idée d'une voie évolutive du développement. Nous avons défendu l'idée d'un règlement pacifique des crises par le dialogue et la réconciliation nationale. Un autre point de vue s'est exprimé dans les tentatives visant à définir qui, parmi les dirigeants de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, est légitime, qui ne l'est pas, visant aussi à décider de la partie à appuyer dans les conflits internes et à dicter des recettes toutes faites pour la transformation démocratique. Le souhait de présenter de façon simpliste ce qui se passe dans le monde arabe comme participant de la lutte de la démocratie contre la tyrannie ou du bien contre le mal a pendant longtemps masqué les problèmes qui étaient liés à la vague montante de l'extrémisme qui aujourd'hui se propage aussi dans d'autres régions. La gravité de cette menace est une fois de plus illustrée par les attentats terroristes survenus au Kenya. L'on sait qu'en Syrie, les forces de l'opposition les plus efficaces sur le plan militaire sont les groupements djihadistes, dans les rangs desquels se trouvent bon nombre de radicaux venus du monde entier. Les buts qu'ils poursuivent n'ont rien à voir avec la démocratie, sont fondés sur l'intolérance et visent à détruire les États laïcs et à créer des califats. Il est difficile de qualifier de clairvoyante une politique dans le cadre de laquelle les mêmes groupes extrémistes sont combattus militairement au Mali, par exemple, et en revanche soutenus, comme c'est le cas en Syrie. Le recours à l'arme chimique est inacceptable, mais cela ne signifie pas que l'on puisse s'octroyer le droit d'accuser et de condamner. Tous les incidents liés à l'utilisation de l'arme chimique par qui que ce soit en Syrie doivent faire l'objet d'enquêtes professionnelles et impartiales et ensuite être examinés par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la seule base des faits et non sur la base d'allégations ou de supputations. Et c'est en juin de cette année, au sommet du G8 en Angleterre, que se sont mis d'accord les dirigeants des pays membres du groupe des 8. Ces derniers temps, on entend de plus en plus affirmer que la menace de la force ou son emploi, et qui sont interdits par la Charte des Nations Unies en termes très clairs, serait la méthode la plus efficace de régler les problèmes internationaux, y compris régler les conflits internes aux États. Certains ont tenté d'élargir cette approche à la situation en Syrie, et cela malgré le fait que toute l'expérience des interventions militaires montrent qu'elles sont inefficaces, vaines et nocives. C'est une voie extrêmement périlleuse qui sape les bases de l'ordre mondial contemporain et mine les régimes de non-prolifération des armes de destruction massive. Il est inquiétant d'entendre des déclarations sur le droit d'utiliser la force militaire pour préserver ses propres intérêts au Moyen-Orient, sous prétexte qu'il y aurait encore un besoin de leadership. Toute l'histoire de ces dernières périodes montre qu'aucun État, aussi grand et puissant soit-il, n'est à même de relever seul ces défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Il y a bel et bien un besoin de leadership, certes, mais aujourd'hui, cela ne peut se faire que sous la forme d'un leadership collectif fondé sur l'action concertée des membres meneurs de la communauté internationale en respectant la vie des partenaires et les normes du droit international. L'acceptation croissante de cette réalité a ouvert la voie aux accords russo-américains sur la mise sous contrôle suivie de la destruction de l'arsenal chimique syrien. Nous nous félicitons de la décision de Damas d'adhérer à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et de s'acquitter au plus vite des obligations qui en découlent. Nous estimons que les décisions du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et du Conseil de sécurité des Nations Unies contribueront à mettre en place le cadre nécessaire pour la destruction des arsenaux chimiques syriens. Les progrès accomplis dans le désarmement chimique de la Syrie devraient insuffler une nouvelle impulsion à la mise en œuvre des accords déjà conclus sur la convocation d'une conférence pour la création au Proche-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Il existe certes des pierres d'achoppement qui sont liées à la participation à la conférence de tous les États de la région. Nous le savons, mais on ne peut s'y référer sans cesse. Voilà précisément une situation où, pour le bien commun, il faut faire montre de leadership et de détermination. Des gens continuent de périr en Syrie chaque jour et la population civile souffre. Les victimes de ce conflit, qui a un caractère de plus en plus interconfessionnel, sont les minorités religieuses, notamment les communautés chrétiennes. Aujourd'hui, la seule possibilité de mettre fin à cela est de sortir de l'impasse le processus de règlement politique de la crise syrienne. Nous continuons à œuvrer énergiquement à la convocation rapide d'une conférence de paix pour la mise en œuvre du communiqué de Genève du 30 juin 2012. Et nous espérons que dans le sillage de la Syrie, l'opposition, elle aussi, répondra constructivement à l'initiative russo-américaine. La crise syrienne ne peut faire oublier la nécessité de régler le problème palestinien. Nous estimons que les dirigeants israéliens et palestiniens seront à la hauteur pour ce qui est devant leur peuple à cette étape critique et sauront reprendre des pourparlers directs entre les parties après cette longue pause. Reconnaissant que les efforts américains ont permis en matière de règlement du conflit au Proche-Orient, nous estimons indispensable d'intensifier l'action du quartet qui est le mécanisme reconnu de mise en œuvre d'un processus pacifique sur la base des décisions pertinentes de l'ONU, des principes de Madrid, de l'initiative de paix arabe. Il faut aussi privilégier la négociation dans d'autres situations encore, y compris le programme nucléaire iranien et le problème nucléaire de la péninsule de Corée. Comme l'a dit le président Vladimir Poutine dans un article récent publié dans le New York Times, il faut cesser d'utiliser le langage de la force et revenir à un règlement civilisé et politico-diplomatique des conflits. Cela permettrait d'assainir le climat international et de renforcer les efforts conjoints dans le contexte des problèmes mondiaux, notamment le terrorisme et le trafic de drogue. La Russie a l'intention d'accorder à ces questions une attention prioritaire à l'occasion de la présidence du G8 en 2014. Aujourd'hui, le carcan du système bipolaire appartient depuis longtemps au passé. Il importe maintenant de renforcer les fondements démocratiques, non seulement au sein des États, mais aussi dans les relations internationales. Cela signifie en particulier qu'il faut reconnaître le droit des peuples de définir eux-mêmes leur destin, de choisir les formes optimales d'organisation sociale et politique qui leur conviennent et leur système socio-économique. Voilà qui doit devenir une norme de conduite intangible pour chacun. Ce n'est qu'ainsi, c'est de la même manière, dans le domaine des droits de l'homme, il faut aussi s'abstenir de croire au caractère exclusif et supérieur de ses propres coutumes et se fonder sur les critères universels contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est important à cet égard de respecter les valeurs traditionnelles communes à toutes les grandes religions mondiales. Il est évident qu'un partenariat authentique est presque impossible sans se fonder sur la coopération économique. La majorité écrasante des États coopèrent dans le cadre de l'OMC et à cet égard opèrent déjà dans un espace économique commun. Cela crée les prémices nécessaires pour œuvrer en faveur de l'harmonisation des processus d'intégration dans différentes régions du monde plutôt que d'essayer de les opposer artificiellement en créant de nouveaux clivages. C'est ce principe qui guide mon pays dans le travail que nous faisons avec nos partenaires pour créer une zone économique commune eurasienne. La Russie accorde une grande importance à la réalisation des OMD et à l'élaboration sur leur base d'un programme mondial de développement pour l'après 2015. Les principales priorités seront l'éradication de la pauvreté, l'appui à la croissance économique par de meilleures possibilités d'investissement et la création d'emplois. Parmi les problèmes les plus urgents, on compte le renforcement des infrastructures dans le domaine de l'énergie et des transports, la lutte contre les maladies infectieuses et la sécurité routière. La coopération entre les États doit reposer sur des mécanismes efficaces et disposer d'une base de ressources suffisante. Dans ce contexte, nous appuyons l'idée de renforcer le rôle de coordination et le potentiel du Conseil économique et social des Nations Unies. Profitant du fait qu'elle préside le G20, la Russie défend systématiquement le développement de son interaction avec l'ONU, de l'interaction du groupe du G20 avec l'ONU. Nous considérons que la résolution adoptée par l'Assemblée générale consacrée aux relations entre l'ONU et le G20 représente un programme réaliste de coopération à long terme. Je suis convaincu qu'en unissant nos efforts sur la base d'un respect et d'une prise en compte authentique des intérêts de chacun, nous saurons faire avancer la cause des nobles buts inscrits dans la Charte des Nations Unies. Je vous remercie et je vous demande pardon si je n'ai pas utilisé mes 15 minutes.